Extra. La chronique américaine.
We will make America great again.
Avec Valérie Beaudoin.
Great again. Valérie Beaudoin, bonjour.
Bonjour.
Pendant great again, notre ami Kim Jong-un, il la toast de beurre de pinot était épaisse pas mal ce matin.
Oui. Oui, c'est plus si great again, leur relation, si je peux m'exprimer ici. Est-ce que la bromance entre les deux est terminée? Entre Donald Trump et Kim Jong-un, ou est-ce qu'elle va l'être? Parce qu'on le sait, là, ce samedi, si vous aviez eu des alertes sur votre téléphone, on disait au début des tirs de missiles près de la Corée du Sud. Finalement, c'est des décès de lance-roquettes de longue portée. Mais quand même, dans un contexte où on espère qu'il y ait des pourparlers qui continuent entre les États-Unis et la Corée du Nord, de faire ce genre d'essai-là. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une démonstration un peu de force du leader nord-coréen, en disant, écoutez, on est encore là, on a encore des capacités militaires. Non, je ne vais pas violer le moratoire que je me suis moi-même imposé. Je ne vais pas faire d'essais nucléaires, je ne vais pas faire des tirs de missiles balistiques intercontinentaux, mais quand même, je vais rappeler que je suis là. Et aussi, on peut mentionner qu'il avait dit récemment que c'était inacceptable les sanctions qui étaient imposées au pays de la Corée du Nord, que vraiment, les États-Unis faisaient preuve de mauvaise foi dans les négociations. On peut se rappeler qu'en février dernier, là, au Vietnam, ça s'était pas très bien passé. Ouais. Trump s'était levé de table, avait quitté sans avoir d'entente. Mais récemment, il avait dit, écoutez, c'est encore mon ami. On va peut-être faire un troisième sommet. Et je crois encore à la bonne foi. Et d'ailleurs, sur Twitter, il a encore réitéré toute son approbation du leader nord-coréen, du fait qu'il croyait qu'on s'en allait dans la bonne direction.
Mais ça n'a pas empêché Kim Jong-un de dire que si les Américains pliaient pas des genoux un petit peu, qu'il allait le regretter sévèrement.
Exactement. Et d'ici la fin de l'année, on espère que les Américains de leur côté fassent quelque chose. C'est un peu le ton, disons, à monter entre les deux.
Bon, et un autre qui est très actif sur la scène internationale, c'est Vladimir Poutine, qui est allé voir Kim Jong-un,
oui, d'ailleurs.
Mais il s'est entretenu avec 45 cette semaine, entre autres.
Oui, tout à fait, au téléphone. Et une conversation, on a des détails sur ce qu'il s'est dit. Et bien sûr, ce qu'il fait encore jaser, François, c'est le rapport Mueller. On n'a pas terminé d'en parler pour les gens qui sont tannés de l'entendre. Là, c'est pas terminé. Les deux auraient discuté. Trump dit que Vladimir Poutine avait un peu un sourire dans la voix lorsqu'on a dit qu'il n'y avait pas de preuve de collusion entre la Russie et les États-Unis dans ce qu'ils ont fait pour l'élection américaine. Mais c'est comme si on oubliait que la Russie s'est prouvé maintenant par les services de renseignement américains que, bel et bien, il avait tenté de changer l'issue de l'élection et qu'il s'était interposé dans l'élection de 2016. Alors, c'est comme si on avait oublié ça. Puis aussi, on reproche au président de ne pas avoir dit, écoutez, on aimerait ça qu'en 2020, vous vous en mêliez pas, mes amis les Russes, parce qu'il y a encore cette menace-là, peut-être de cyberattaque ou de piratage ou d'autres interventions de la Russie pour l'élection de 2020. Alors, on a plutôt parlé de la Corée du Nord, justement, et du Venezuela, de la situation.
Bon, et pourtant, toujours dans le rapport Mueller, on veut la peau de William Barr. En tout cas, ce sont les démocrates qui la réclament. Pourquoi?
Oui, parce que William Barr, si vous vous rappelez, à la conclusion du rapport Mueller, avait donné au début une conclusion sur 4 pages. Il disait il n'y a pas vraiment de preuves d'obstruction, il n'y a pas de collusion. Et là, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que M. Mueller n'était pas très, très content. Il a renvoyé une lettre qui a été obtenue par les journaux américains à M. Barr en disant, écoutez, je crois que vous avez mené un peu, pas en bateau, les Américains, mais quand même, c'était des conclusions hâtives. Il n'y avait pas de contexte. Oui, ouais. C'est ce que j'ai dit dans mon rapport, mais l'espèce de spin médiatique qui s'en est suivi, ça donnait pas la bonne impression de mon rapport qui disait quand même que oui, il y avait des éléments qui pouvaient laisser tendre vers l'obstruction à la justice, mais que je laissais la décision au ministère de la Justice de savoir si on continuait dans cette veine-là ou pas. On l'a accusé cette semaine lorsqu'il a témoigné devant le Sénat que c'était un avocat de Trump et non le procureur général des Américains. Pourquoi est-ce qu'il était à la solde du président? Est-ce que le président lui avait demandé d'enquêter sur ses ennemis? Kamala Harris, entre autres, qui est candidate démocrate, lui a demandé ça. Et maintenant, du côté des Républicains, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut demander une enquête pour les gens qui ont enquêté sur le rapport Mueller. Alors vraiment, c'est pas terminé parce qu'on dit que le FBI est à la solde, bien sûr, des démocrates.
Bon, et pendant ce temps-là, la campagne démocrate va son plein. Joe Biden, qui a lancé sa campagne il y a maintenant un peu plus d'une semaine, c'est lui le favori?
Écoute, 44% des intentions de vote. Sanders est seulement à 14% quand les deux se talonnaient quand même avant qu'ils se lancent officiellement dans la course. Alors oui, il met une bonne avance. Est-ce que les jeux sont faits? Non. On peut se rappeler de la campagne de 2016. Est-ce que quelqu'un au début se disait que Donald Trump allait être le candidat à la ligne d'arrivée? Très, très peu de gens. On pensait à Jeb Bush, entre autres. Mm-hmm. Alors, est-ce que ça va être le même cas? On le sait pas. C'est encore très loin. Je vous rappelle qu'on va commencer à voter seulement en février 2020. Alors là, l'hiver, les débats qui vont commencer en juin, mais on a l'impression là qu'on est presque au fil d'arrivée parce qu'on en parle beaucoup. Mais Joe Biden, ça va quand même bien là dans les sondages pour lui, on peut dire même très bien.
Comment on va faire justement les ces débats-là, 20 personnes, on a de la misère à en faire un à 4 ici, là, puis ils vont faire ça à 20. Comment ils vont-ils procéder?
Parfois, ça va être sur deux plages horaires, deux soirées différentes ou un après l'autre. Les gens doivent quand même avoir au moins 1% des intentions de vote. Alors, il y a quand même des critères pour qu'ils soient dans le débat principal. Mais l'année passée, on l'a vu avec les Républicains, il y en avait plusieurs. Souvent, il peut y en avoir plus d'une dizaine là, sur la scène. Alors, on verra comment ça va se passer.
Du moment, ça ne devient pas cacophonique.
On espère.
Ouais. Michelle Obama, qui était au Centre Bell cette semaine, un petit mot sur cette conférence-là, où c'était pas mal plus féminin que masculin, bien sûr.
Oui, tout à fait. Puis je crois que Catherine Beauchamp vous en a glissé un mot hier aussi, mais du côté plus politique, je vous dirais que les gens qui s'attendaient à ce qu'elle parle de Trump, qu'elle parle de la campagne électorale actuelle, la campagne chez les démocrates, eh bien, ils ont été déçus parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de politique. La seule chose qu'elle a répétée, c'est non, je ne vais pas me présenter. Ouais. Si les gens ont lu mon livre et m'ont écouté dans les derniers mois, ils vont le savoir. C'est sûr que ça n'arrivera pas. C'est pas là ma place. C'est pas quelqu'un qui aime la politique. Mais quand même, je vous dirais qu'au point de vue du discours féministe, du discours de leadership, c'est quand même quelqu'un qui est très, très intéressant à aller voir. Et pour les gens qui s'ennuient de Barack Obama et de Michelle, ben, je pense que c'était aussi les gens prenaient ça un peu comme une couverture de réconfort de voir Michelle Obama au Centre Bell parler de son amour pour Barack, qui est encore très, très populaire auprès des Américains, mais aussi auprès des Canadiens, énormément.
Bon, et pour ceux qui craignent que Michelle Obama ait lancé la serviette sur Donald Trump, non, c'est pas fini. Ils ont signé un contrat avec Netflix pour une série de 7 documentaires ou films. Et d'ailleurs, on va passer au tordeur Donald Trump là-dedans.
Et aussi, pendant que la Convention démocrate, je suis certaine qu'on va sortir Michelle ou Barack pour parler des candidats.
Ça, c'est clair. Est-ce qu'on aura droit, finalement, au rapport d'impôt du président?
J'imagine que ça t'intéresserait, François, de voir ça.
C'est sûr.
Hein? On l'attend. Écoutez, c'est pas encore fait. Il y a toujours une date limite. On la repousse toujours. Et là, il y a une loi de 1924 qu'on étudierait pour appuyer, en fait, la démarche en se disant que on a le droit. Le Congrès peut demander à n'importe quel Américain d'avoir le rapport d'impôt s'il a besoin de faire enquête, mais ça risque de se retrouver devant les tribunaux. C'est vraiment pas encore fait, ce rapport d'impôt-là. Je vous rappelle que les autres candidats démocrates, la plupart, si c'est pas tout le monde, ont remis le rapport d'impôt. Mais Donald Trump continue de s'acharner. Et aussi, il avait dit, moi, je paye pas d'impôt, je suis intelligent.
Ouais.
On a hâte de voir ça.
J'ai surtout hâte de voir sa richesse, parce que c'est là-dedans qu'on va voir ses états de revenus dépenses.
J'espère qu'on va pouvoir s'en parler.
J'espère un jour, oui.